Bonjour à toutes et à tous. Je suis Myriam Victor et je suis ravie de vous accueillir à cette nouvelle webconférence de Jury Travail. Donc l'année 2021 a été une année record en matière de cession et donc d'acquisition d'entreprises. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité aborder ce sujet avec vous aujourd'hui. Alors avant d'entamer cette webconférence, quelques mots pour présenter Jury Travail à ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne. C'est d'abord de très nombreux articles sur l'actualité juridique et ce, dans tous les domaines de droit. Mais c'est surtout un abonnement qui vous donne accès à une base documentaire très riche qu'on a souhaité rédiger dans un langage assez clair. Cet abonnement vous donne également accès à de nombreux modèles de lettres et de contrats. Et enfin, à notre équipe de juristes qui est basée à La Rochelle et qui répondent à vos questions par téléphone. D'ailleurs, à la fin de la webconférence, nous vous communiquerons un lien qui vous permettra de poser votre première question gratuitement à nos juristes et donc de tester ainsi notre service. Alors, Jury Travail, c'est également un réseau d'avocats auquel appartient Maître Blatz, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bonjour à vous, Maître, et merci beaucoup d'être parmi nous.
Bonjour Myriam, merci. Bonjour à tous et merci d'être présent.
Alors, comme d'habitude, nous avions mis à votre disposition en amont de cette conférence un formulaire vous permettant de nous envoyer vos questions sur notre thématique du jour. Nous les avons transmises à notre invité qui va y répondre donc au cours de cette webconférence qui aura une durée prévue de 45 minutes. Comme d'habitude, quelques jours après cette conférence, vous recevrez par email la vidéo, ce qui vous permettra de revenir sur les propos de Maître Blatz. Si vous souhaitez poser des questions au cours de la webconférence, ma collègue Marine, que je remercie beaucoup d'être là, va vous orienter vers certains contenus de notre site pour vous aider à y répondre. N'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils juridiques, n'hésitez pas à contacter donc Maître Blatz, dont vous voyez les coordonnées à l'écran. Je vous les redonnerai également à l'issue de la conférence. Alors, toutes les questions reçues ont été regroupées en trois thématiques. Donc, tout d'abord, de la préparation de l'acquisition à la rédaction de la lettre d'intention. Nous verrons ensuite une partie consacrée à l'audit jusqu'au closing. Enfin, nous aborderons le cas particulier de l'acquisition d'une entreprise en difficulté. Donc, nous allons commencer par la préparation de l'acquisition. Donc, il est essentiel de prendre le temps de construire son projet de rachat d'entreprise. À quoi faut-il penser à cette étape, Maître?
Oui, alors un petit mot par rapport au titre de la conférence, puisqu'en fait le titre c'est l'acquisition d'entreprise, et je vais en fait beaucoup utiliser le terme cession d'entreprise, qui est en fait un peu un abus de langage, mais c'est comme ça qu'on appelle ce genre de transaction chez les avocats. Mais comprenez que quand je dis cession, c'est la même chose que l'acquisition. Voilà. Pour répondre à votre question, alors je pense que la première étape c'est d'évaluer ses capacités financières, ce qui paraît somme toute assez logique. D'une part, c'est les apports personnels la société qui veut se porter à quelle heure, mais également en fait les possibilités de faire appel à des emprunts bancaires et à lever des fonds auprès d'autres investisseurs publics ou privés, ce qui est particulièrement important. Je pense par exemple, c'est particulièrement important pour les salariés, puisque depuis la loi Hamon, ils bénéficient d'un certain nombre d'avantages d'exonération fiscale dans le cadre des MBO. C'est le management buyout qui permet aux salariés, ou au moins une partie des salariés au minimum, de racheter leur société en créant une société holding qui, en fait, sera exonérée d'impôts sur les dividendes que cette société holding recevra de la société qui a été acquise. Donc voilà, ça fonctionne aussi pour les salariés. Deuxième point, c'est anticiper, puisqu'en fait, une opération d'acquisition, c'est une opération assez longue qui va de 6 mois pour les opérations les moins complexes jusqu'à 18 mois, voire plus pour les opérations les plus complexes, ce qui nécessite une anticipation vraiment en amont. Et le troisième point qui me paraît important à cette étape, c'est d'identifier le plus précisément possible le type d'entreprise qu'on cible, notamment au niveau du secteur d'activité, de la taille de la société cible et un certain nombre de facteurs dont on discutera un peu plus tard.
Très bien, merci, merci beaucoup. Alors, est-il indispensable de se faire accompagner dans le processus d'achat d'une entreprise et par qui?
Alors, la réponse est oui. Parce qu'en fait, tout simplement, il n'est pas suffisant de se baser sur l'apparence des sociétés pour en faire l'acquisition, même sur une apparence, sur un chiffre d'affaires, sur l'image, sur un nombre de salariés déclarés, on ne peut pas s'y fier. Par conséquent, il est nécessaire de faire appel à des professionnels. Le professionnel le plus important, c'est l'avocat, c'est naturellement. Non pas parce qu'il serait plus intelligent que les autres, mais parce qu'en fait, c'est le pilier de l'opération d'acquisition, puisqu'en fait, il va être là à toutes les étapes, et notamment en faisant du conseil aux dirigeants d'entreprise ou à d'éventuels investisseurs. Donc, dans les différentes étapes de l'acquisition. Il va également en fait, mener les négociations, souvent avec un autre avocat, sur les différents termes des différents actes, des différents documents et contrats. C'est aussi lui qui va conduire l'audit. Alors, pas nécessairement tout seul, il va le faire avec déjà d'autres avocats, mais également, si nécessaire, en faisant appel à des experts auxquels il peut se fier et dont il sait leur utilité. Il sera également là pour la finalisation de l'opération. Un deuxième professionnel qui est important, c'est l'expert comptable, puisque en fait, c'est sa spécialité d'examiner la comptabilité d'une entreprise et c'est des opérations particulièrement complexes, donc ce qui se fait en lien avec les avocats, mais voilà, ce qui est un deuxième professionnel indispensable. Et au-delà, c'est possible de faire appel à d'autres professionnels, mais ce n'est absolument pas indispensable.
D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, comment et où identifier les entreprises qui sont candidates à la reprise?
Pour le où, c'est vrai que ce n'est pas évident parce que d'emblée, on ne saurait pas forcément s'y prendre. Alors, il y a deux endroits, en fait, aujourd'hui, grâce à Internet, c'est plus facile. C'est d'une part la bourse de la transmission, qui est gérée par BPI France, qui est un acteur institutionnel qui est spécialisé dans le financement des entreprises, et qui recense, en fait, les entreprises qui se portent volontaires pour être acquises. Il y a également la Chambre des métiers de l'artisanat, donc qui concerne des entreprises un petit peu, du coup, plus spécialisés, qui listent aussi les entreprises qui peuvent être susceptibles d'être acquises. Après, en fait, pour identifier les entreprises, il y a peut-être quelques questions essentielles à se poser. Je parlais avant d'identifier le secteur d'activité. Il y a également la question de la taille des sociétés, puisqu'il n'y a pas de seuil officiel, mais on peut décliner ça entre les sociétés qui ont moins de 50 salariés, donc les PME, les sociétés entre 50 et 250 salariés, qui sont des petites moyennes entreprises, et les sociétés qui font de plus de 250 salariés, qui sont des plus grosses entreprises, et bien sûr des entreprises qui en ont des milliers d'employés, mais ça c'est plus rare. Également, se poser la question de la santé financière de la société. Est-ce qu'on recherche une société extrêmement rentable, ou alors au contraire une société qui sera en difficulté, qu'on souhaiterait redresser, après il y a d'autres questions un peu presque secondaire, comme est-ce que la société a pour client des consommateurs ou des professionnels, puisque c'est aussi ça joue sur beaucoup d'éléments de la société. Et enfin, sur l'aspect géographique, est-ce qu'on cherche une société ancrée uniquement en France, dans une seule région, sur le marché unique de l'Union européenne ou alors à l'international hors de l'Union européenne. Je parle de ces questions parce qu'en fait, plus on se pose des questions à ce moment-là et plus on les pose en détail, plus on gagnera du temps par la suite.
Oui, c'est effectivement un très précieux conseil. Alors, une fois que l'entreprise cible a été identifiée, il faut rencontrer ses dirigeants et commencer les négociations. Quels sujets doivent être abordés lors de ces premières rencontres et ces premières négociations?
Oui, alors c'est un moment assez important. Même si à ce stade-là, on ne s'engage pas formellement par un contrat, la première impression, comme d'habitude, est toujours très importante. Et alors à ce moment-là, il faut présenter son projet d'acquisition, expliquer pourquoi est-ce qu'on souhaite acquérir. Il faut aborder des premiers éléments sur la question de la condition de... Déjà sur la valorisation de la société, comment est-ce qu'on peut valoriser la société. Pas forcément avec un chiffre précis, mais au moins une fourchette ou une idée. Parler des conditions de financement également, puisque c'est une question aussi de crédibilité, puisqu'on ne va pas perdre de temps avec quelqu'un qui n'est pas capable de se financer. Également avec la question des garanties, puisque si on fait appel à un emprunt bancaire, il faut souvent avoir des garanties. Maintenant, il ne faut pas se focaliser uniquement sur les questions de prix ou de financement. Il y a des questions assez importantes, puisque la personne qui cède une entreprise, elle y a quand même travaillé. Que ce soit ses dirigeants, ses actionnaires, ses salariés. Donc, il y a aussi les questions de maintien de la marque, la question de maintien de l'emploi, la question du rôle des dirigeants qu'il ne faut pas sous-estimer lors de la transition, en fait, dans la période après accord pour l'acquisition de l'entreprise et avant qu'en fait les anciens dirigeants partent. Et alors, un dernier point qui est assez important, et peut-être qu'on y reviendra après, c'est sur la question de l'exclusivité. Puisque quand vous faites une démarche d'acquisition d'une entreprise, vous ne souhaitez pas que le cédant mène des négociations en parallèle avec d'autres potentiels acquéreurs. Donc c'est une question importante qu'il faut aborder pour être sûr qu'on est les seuls à se porter acquéreur et qu'on n'aura pas de mauvaise surprise par la suite.
Très bien. Donc, en l'étape suivante, on commence à formaliser un petit peu les choses, puisqu'il va s'agir de rédiger la lettre d'intention. Donc, qu'est-ce que la lettre d'intention et que doit-elle contenir?
Alors, la lettre d'intention, ce n'est pas encore un contrat, puisque en fait, c'est l'acquéreur qui l'a fait. Par contre, elle reflète quand même la volonté des parties de négocier, donc c'est pas un document à négliger. L'objectif, en fait, c'est d'encadrer les futures négociations et aussi pour les parties d'exprimer en fait leurs intentions par rapport à la conclusion du contrat. La loi, elle n'impose donc pas de contenu par rapport à ça. Mais en fait, ce qu'on retrouve fréquemment, c'est la question du prix, les conditions de paiement, les durées de négociation, les points qui vont être négociés. La répartition aussi, c'est assez important, des frais de procédure, parce que si on fait appel à un avocat, s'il y a des frais d'enregistrement, etc., il faut savoir qui va les payer, et donc il faut le savoir en amont. Et là, c'est également à ce moment-là qu'on va discuter de la clause de confidentialité. La clause d'exclusivité dont je parlais avant. Alors, la clause de confidentialité, ce sera surtout le cédant qui souhaitera à ce que en fait, tous les documents qu'il transmettra à l'acquéreur ou à ses conseils ne seront pas utilisés par la suite pour faire la concurrence déloyale ou ne seront pas diffusés. Voilà. Mais l'acquéreur doit être au courant de cette demande.
Oui, puis récemment, dans l'actualité, la clause de confidentialité, on en a pas mal entendu parler avec Elon Musk dans le cadre de sa tentative de rachat de Twitter, où a priori, d'après les dirigeants de Twitter, effectivement, Elon Musk n'aurait pas respecté justement cette clause de confidentialité. Donc, c'est quelque chose assez important dans cette lettre d'intention. Alors, parlons maintenant du montage juridique et financier de la reprise. À quoi faut-il penser? Qu'est-ce qui est vraiment le plus important à vos yeux à ce stade?
Alors, concernant cet élément, le plus important, à mon sens, c'est sur la question du recours à un emprunt bancaire, puisque c'est souvent effectué, en plus des apports initiaux. Et à ce moment-là, le montage le plus utilisé, c'est la création en fait d'une holding ou d'une d'une française, d'une société faîtière, en fait, qui va contracter un emprunt qui permettra d'acquérir la société, qui deviendra une filiale de la holding. Alors, vous me direz pourquoi est-ce qu'on n'acquiert pas la société directement par sa propre société. C'est en fait pour deux raisons. La première, c'est que les intérêts du prêt seront remboursés par les dividendes qui seront versés par la société fille, donc ce qui est une garantie intéressante pour les banques. Et également, le deuxième élément, c'est la déductibilité du résultat pour la holding des intérêts de son emprunt. Voilà, donc c'est deux éléments qui sont importants. Et alors, le troisième élément sur le montage juridique et financier, c'est aussi la question des droits de mutation, parce qu'en fait, l'acquisition d'une société, c'est avant tout l'acquisition des titres de propriété de la société. Et lorsqu'on fait cette transaction-là, l'acquéreur devra est redevable en fait, auprès des impôts de droits de mutation, et en fait, qui s'élève par exemple pour une SAS, une société d'action simplifié à 0,01%, mais par exemple pour une SARL, c'est 3%, ce qui peut être un montant voilà, sur une transaction qui fait des centaines de milliers d'euros ou des millions d'euros. Ça peut faire des montants importants, et donc voilà, c'est des questions assez importantes.
Très bien, merci beaucoup. Alors, existe-t-il des aides à la reprise d'entreprise et quelle démarche doit-on accomplir pour pouvoir en bénéficier ?
Alors oui, c'est une question très intéressante parce qu'il existe de très nombreuses aides. Alors je ne vais pas toutes les énumérer, mais il y a des aides qui sont des aides publiques, hein, qui sont soit par l'État, soit par les collectivités locales, que ce soit les régions, les départements, les mairies. Elles ont toutes des compétences dans le domaine. Elles sont en fait en tout, je vous dis intéressant, parce qu'il y en a beaucoup, c'est qu'il y en a 3000. Total en France. Voilà, ce qui fait beaucoup. Pour en citer quelques-unes, il y a par exemple le maintien des indemnités sociales pour le repreneur. Lorsque celui-ci touche des indemnités sociales, il peut s'accumuler ça dans le cadre de sa reprise. Donc, ça, c'est pour les petits entrepreneurs. Il y a des aides spécifiques aussi pour les femmes, voilà, pour soutenir l'entrepreneuriat féminin, également pour les jeunes repreneurs. Voilà, quelques cas. Après, il existe aussi des crédits d'impôt, donc là, qui vont être un peu plus ouverts, qui vont concerner plus d'entreprises. Et là, c'est ce dont je parlais avant pour le crédit d'impôt depuis la loi Hamon. Lors de la reprise par les salariés de leur propre entreprise, ils sont exonérés en fait, d'imposition sur les bénéfices pendant une certaine période. Alors, il y a deux autres éléments, c'est les prêts sur honneur, en fait, qui sont utiles pour les petits projets. Mais ce n'est pas forcément extrêmement connu, donc c'est intéressant, sur des projets de rachat de jusqu'à 50 000 euros, en fait, qui permettent, qui sont des prêts sans caution, sans garantie, mais qui permettent par la suite d'obtenir des prêts plus importants, donc qui sont des ouvertures sur des financements bancaires. Et la dernière, c'est en fait, alors c'est pas vraiment une aide, mais c'est les investissements par les investisseurs publics, je parlais de BPI France avant, qui proposent des financements à des taux beaucoup plus intéressants que les investisseurs privés.
D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, nous allons aborder maintenant donc l'audit de l'entreprise, une phase ô combien importante. Et sur quoi porte-t-il précisément l'audit d'entreprise, est-ce bien la même chose que ce qu'on appelle, ce qu'appellent due diligence nos amis anglo-saxons?
Oui, alors on aime bien utiliser dans le domaine du droit des affaires, du droit des acquisitions, des termes anglais, mais c'est exactement la même chose, un audit et des due diligence. Et moi, je préfère utiliser le terme audit, parce qu'en fait, on se base dans le cadre légal français et européen, du coup, c'est plus clair. Voilà, et alors sur quoi porte l'audit, il y a plusieurs éléments. Donc en fait, c'est une phase très importante, puisqu'on va examiner de fond en comble la société qu'on va acquérir. Et alors, les trois aspects les plus importants, c'est d'une part la question de la gouvernance de la société, le droit des sociétés, donc qui fait part de, c'est un audit à lui seul. Le droit social, qui lui est également très important. Et la question de la fiscalité. Donc en fait, c'est les trois composantes, si vous voulez, de l'audit d'acquisition. Et ça, en fait, c'est commun à toutes les sociétés. Après, pour certaines sociétés qui sont plus spécialisées, on va rajouter des composantes en droit de la propriété intellectuelle, en droit de l'environnement, enfin, de manière générale sur toutes les questions environnementales qui peuvent présenter un risque juridique pour la société. Un audit des sous-traitants également, voilà, s'il y a beaucoup de sous-traitants. Mais ça, c'est des domaines plus spécialisée. Alors, simplement pour préciser un petit peu, la question de la gouvernance et droits des sociétés, c'est notamment vérifier s'il y a eu bien eu des approbations des comptes, s'il y a eu la réunion des assemblées générales et des organes sociaux de la société, si les dirigeants ont bien été nommés, parce que s'ils n'ont pas été, leurs actes peuvent être mis en cause et ça peut présenter des conséquences importantes pour la société. Pareil pour la question sociale, le droit social, c'est tout ce qui est contrat de travail, d'éventuels licenciements qui auraient été effectués à tort pour l'entreprise, le non-paiement de salaire, d'indemnité salariale, de primes, ou même de cotisations sociales, puisqu'en fait tout ça, ça présente des risques pour la société, donc pour l'acquéreur. Et la fiscalité, bon, bah, c'est un peu plus simple, c'est est-ce qu'il y a eu un paiement des impôts, est-ce que la société est exposée à des futurs redressements. Donc, l'objectif de cet audit et de ces différents aspects d'audit, c'est d'évaluer les risques de litige en fait, qui ont pour conséquence, s'il y a des risques de litige qui sont identifiés, ça va être pour la société, soit en fait, de provisionner, donc la société cible, soit de provisionner un certain montant pour répondre à ces risques, soit en fait, de faire baisser le prix de vente. Dans le cas où c'est possible. Et bien entendu, en cas de très gros problème, on peut arriver à l'annulation totalement de la cession à l'issue de cet audit.
Très bien, merci. Effectivement, il faut être vraiment très vigilant, y compris sur des paiements de droits. Je pense notamment à un grand groupe qui avait fait l'acquisition d'une radio qui ne reversait jamais de droits de diffusion aux maisons de disques, qui se sont vus attaquer par les maisons de disques. Et c'est le repreneur a eu quelques mauvaises surprises à ce moment-là. Donc, il faut être vraiment très vigilant sur tous les points. Donc, cet audit va permettre également d'évaluer un peu la valeur de l'entreprise. Comment évalue-t-on donc c'est la valeur d'une entreprise. Et autre question, doit-on forcément rédiger une GAP, donc il s'agit d'une garantie d'actifs et de passifs. Et que doit contenir cette GAP?
Alors, c'est deux questions en une et qui sont très importantes. Parce qu'en effet, évaluer la valeur d'une entreprise, c'est fondamental puisque c'est le prix qu'on va payer. Alors malheureusement, il n'existe pas de technique unique pour évaluer une entreprise, donc ce qui complique la chose, puisque s'il n'y a pas de technique unique, comment est-ce qu'on définit le prix? Ça va être la combinaison de plusieurs techniques qui vont être employées. La première, c'est sur on prend l'actif net de l'entreprise pour tenter d'évaluer sa valeur. La deuxième, en fait, c'est sur le bénéfice de l'entreprise et son résultat, ce qui est basé sur l'excédent brut d'exploitation qui est dégagé par l'entreprise. On peut également, en fait, une dernière technique qui est la comparaison en fait, d'une entreprise avec des entreprises dans un même secteur d'activité, mais ce qui est en fait une technique un petit peu moins précise. Dans la mesure où en fait, deux entreprises, même dans un même secteur d'activité, ne se ressemblent pas forcément. Voilà. Mais en combinant ces différents éléments, on arrive à un prix, ou au moins une fourchette de prix qui permettra après de négocier plus précisément le prix. Voilà. Et alors, sur la question de la garantie d'actifs et de passifs, alors, c'est quelque chose qui est absolument fondamental dans toute cession, dans toute acquisition de société. Puisqu'en fait, la garantie d'actifs et de passifs, elle vise à indemniser tout simplement l'acquéreur pour les fautes qui sont faites par le cédant avant l'acquisition, donc ils ne sont pas la responsabilité de l'acquéreur, mais en fait dont le dommage et dont le coût apparaît uniquement après la cession. Donc si vous ne faites pas de garantie d'actifs et de passifs, vous pouvez subir en fait tous les comportements du cédant. Donc, vous n'êtes absolument pas responsable, dont vous n'avez pas forcément connaissance au moment où vous avez acquis, mais vous en supportez le coût au final. Donc voilà, c'est extrêmement important. Et alors dedans, on va envisager tout ce qui est futur litige, donc né de fait antérieur à la cession, de créance impayée, de redressement, d'un éventuel redressement fiscal. Encore une fois, pour des fautes avant la cession. Et alors, sur la forme, une GAP, ça peut prendre deux formes. C'est soit une clause, en fait, dans le contrat de cession. Mais alors là, c'est vraiment si c'est une cession pas très complexe. Et donc, on n'anticipe pas vraiment de problème. Mais de manière générale, en fait, ce sera un contrat à part entière. Alors, qui sera annexé, finalement, contrat de cession, au protocole d'accord de cession, mais en fait qui est un document à lui seul et qui en fait fait l'âpre de beaucoup de négociations. Ça va être principalement entre les avocats, bien sûr en lien avec, avec l'acquéreur, mais ça va souvent porter sur des thèmes assez techniques, assez juridiques, qu'il faut bien définir et ça demande voilà, beaucoup de travail d'anticipation et de définition.
Très bien, merci. Alors passons donc maintenant à la rédaction du protocole d'accord de cession. Que doit-il comporter et sur quel point être vigilant encore une fois ?
Alors si on en arrive à la rédaction du protocole d'accord de cession, c'est qu'on a déjà fait une grosse partie du travail puisqu'on a passé les audits, les premières négociations. Donc c'est qu'on est maintenant dans une décision du cédant et de l'acquéreur pour procéder à la transaction. Donc en fait, cet accord, c'est un contrat qui est signé par les deux parties, ou plus éventuellement, mais en tout cas par le cédant et l'acquéreur. C'est à force obligatoire pour les parties, elles ne peuvent plus se dégager du contrat. Ce qui va être compris là-dedans, ça va être une description précise de l'entreprise et de ses différents éléments. Donc en fait, c'est un point particulièrement important parce qu'on peut imaginer qu'il suffit de mettre le nom de l'entreprise, mais non, il faut vraiment définir qu'est-ce qui est compris dans la cession, parce que sinon ça ne le sera pas. Et donc ça comprend notamment tout l'actif de l'entreprise cible. On va aussi définir les modalités de cession des titres à l'acquéreur, donc le transfert vraiment des titres de propriété qui formaliseront la transaction. La question aussi, j'en parlais au début, de la transition entre l'ancienne équipe et la nouvelle équipe, en tout cas la transition entre le cédant et l'acquéreur, puisqu'il y aura une phase de transition après la signature de ce protocole d'accord, éventuellement même à l'aboutissement de la cession. La question du prix, puisque je disais avant, on n'a pas toujours un prix fixe, mais même si on a un prix fixe à ce moment-là, il faut toujours prévoir une clause de révision, parce que le prix peut évoluer entre le moment de la signature de ce protocole-là et le moment du transfert effectif des titres de propriété de la société. Et en fait, si on n'a pas déterminé de prix, il faut fixer la méthode d'évaluation précise par rapport aux différents éléments dont j'ai parlé avant, pour déterminer de manière objective le prix, éventuellement en faisant appel à un expert. Et on va également parler dans ce protocole d'accord de tout ce qui est le calendrier de cession, la date de cession finale, les méthodes de paiement, du prix de l'acquisition, parce que voilà, c'est des choses importantes, parce que c'est des montants importants. Ce qu'on va également avoir, on va avoir le montant des pénalités en cas de retrait, parce qu'en fait, c'est un contrat et la force obligatoire entre les parties. Mais il faut prévoir des pénalités pour dissuader en fait, les parties de se retirer ou alors voilà, d'indemniser suffisamment la partie qui ne s'est pas retirée. Un point extrêmement important, c'est les conditions suspensives. Puisqu'en fait, les conditions suspensives, comme elles portent leur nom, si elles ne sont pas satisfaites, elles suspendent et même elles annulent l'acquisition. Et on passe principalement à la question de l'obtention du financement par l'acquéreur. Ça va être surtout ça. On peut également, à ce moment-là, encore ajouter la question de la réalisation d'un audit comptable pour s'assurer de notamment la question de la rentabilité de la société, voilà, que les chiffres soient bons si on ne l'a pas fait avant. Voilà, et après, il peut y avoir des engagements divers tels que, en fait, demander simplement aux cédants de ne pas prendre de décisions stratégiques trop importantes, par exemple en termes d'investissement ou en termes d'augmentation de la masse salariale, pour qu'il n'y ait pas un emploi trop important de personnes ou bien de licenciement, tout simplement. Et enfin, un dernier élément, c'est la clause d'attribution de juridiction. Ça peut paraître secondaire, mais ça permet en fait de prévoir à l'avance la juridiction qui sera compétente pour trancher les litiges sur le contrat, et ça peut varier, voilà. Et en fait, bien entendu, à ce protocole d'accord, on va annexer tous les documents justificatifs nécessaires, par exemple les contrats de travail, les comptes, l'état des hypothèques et amortissements, la méthode dont je parlais d'avant d'évaluation des prix, la méthode d'évaluation des stocks, voilà, c'est tout ça qui doit apparaître soit dans le protocole, soit dans les annexes.
Donc c'est un document effectivement très complet et qu'il faut particulièrement soigner. Alors, certains représentants du personnel sont aujourd'hui présents parmi nous, donc parce qu'ils ont aussi un rôle à jouer un petit peu dans le cadre de ce processus d'acquisition. Ils doivent être informés et consultés. Et donc, à quel moment doit-on informer et consulter les instances représentatives représentative, pardon, du personnel. Y a-t-il un ordre à respecter? Est-ce qu'on doit d'abord consulter le CSE de l'entreprise qui va être achetée ou est-ce que l'ordre est totalement indifférent? Et enfin, une dernière question liée à ces instances, est-ce que le CSE de l'entreprise cédée peut-il être amené à disparaître à la suite de la cession?
D'accord, donc encore plusieurs questions
oui.
en même temps, mais en fait qui sont en effet très intéressantes et très importantes dans le cadre de l'acquisition, puisque le CSE il est informé et il est consulté pour toutes les modifications importantes dans la structure d'une entreprise, de l'entreprise cédée par exemple, et en fait l'acquisition d'une entreprise c'est un changement de structure important. Et en fait, bien sûr, cette consultation elle doit intervenir avant l'acquisition et avec les informations suffisantes sur la procédure. Il doit notamment être laissé en fait un délai suffisant pour consulter ces documents. On peut pas leur donner ces documents et leur dire qu'ils ont le même délai par exemple que pour se prononcer sur les décisions ordinaires qui sont de un ou deux mois. Il faut vraiment qu'il y ait suffisamment de temps pour étudier tous les documents qui vont être donnés. Sur la question de l'ordre entre est-ce que c'est le CSE, les représentants, en fait, c'était les représentants du personnel, d'entreprise cédée ou l'entreprise acquisitrice, donc la loi ne dit rien là-dessus. Donc c'est plutôt une question de logique, ce qui semble plus logique de demander aux représentants du personnel de l'entreprise cédée, tout simplement parce que il y a les modifications pour les salariés sont souvent les plus importantes pour l'entreprise cédée. Puisqu'on peut penser que l'entreprise qui fait l'acquisition, elle va projeter des mutualisations de certains départements, de certains services de l'entreprise qui va être intégrée. On peut penser à des fermetures de sites, on peut penser à des changements de conditions de travail ou de rémunération. Donc voilà, ce qui est des choses très importantes pour procéder. Mais ça peut également être des choses positives, des perspectives d'embauche, d'augmentation de rémunération, d'amélioration des conditions de travail, de pérennisation de l'activité ou du développement de l'activité. Si les conditions peuvent être plus intéressantes dans l'entreprise qui fait l'acquisition, et donc dans un second temps, les représentants du personnel de l'entreprise qui fait l'acquisition pourraient se prononcer. Et oui, il y avait la question de la disparition du CSE en cas d'acquisition. Donc là, je parlais d'une éventuelle intégration, mais en fait, c'est ça la question. Le CSE, il demeure en fait dans l'entreprise qui est acquise, aussi longtemps que l'entreprise conserve une personnalité juridique distincte. Donc, si vous voulez, si elle devient une filiale, elle conserve son propre CSE, donc ses propres règles qui sont relatives. Par contre, si elle est intégrée et fusionnée dans l'entreprise qui l'a acquise, dans ce cas-là, le CSE va être absorbé.
Très bien, merci beaucoup. Alors, parlons maintenant des salariés plus généralement. Il y a Angélique qui nous a posé une question sur le sujet qui avait juste une petite question d'avance. Donc, les salariés de la société mise en vente doivent-ils également être informés? Quand? Et puis, j'ajoute juste la petite question d'Angélique. Y a-t-il une obligation de priorité de cession aux salariés?
Sur les salariés qui doivent être informés, la réponse est oui, ils doivent toujours être informés. Mais en fait, c'est depuis uniquement la loi Hamon de 2014, puisqu'ils ont une possibilité de racheter la société. Il y a en effet une question de priorité, qui va être selon la taille de la société, puisqu'en fait, pour être clair, s'il y a moins de 50 salariés dans la société, les salariés doivent être informés au moins deux mois avant la réalisation de la cession, avec pour conséquence concrète de leur donner la possibilité de présenter un projet d'achat. Donc en fait, ils ont une priorité si vous voulez, mais il n'y a pas d'obligation pour l'employeur d'accepter le projet des salariés. Et le deuxième cas de figure, c'est si en fait on est dans une entreprise de plus de 50 salariés, il y a une information des salariés qui va être dans les mêmes conditions que l'information du CSE, et là aussi avec une possibilité pour les salariés de se porter acquéreur. Et en fait, la sanction de défaut d'information, ça n'entraîne plus l'annulation de la transaction. Théoriquement, un employeur pourrait ne pas informer ses salariés pour procéder à la cession de l'entreprise sans leur permettre de présenter une offre d'achat. Il y a tout de même en fait une amende civile pour l'employeur qui n'aurait pas respecté son obligation d'information des salariés, qui serait de maximum 2% du montant de la transaction.
Oui, donc un montant non négligeable si la transaction est élevée. Et donc la loi Hamon 2014, pour rappel à nos internautes, c'est ce que communément on a aussi appelé la loi Florange, puisque c'était né de l'histoire de cette entreprise lorraine. Alors, après donc la signature du protocole d'accord de cession, interviennent le pré-closing et le closing, encore des termes anglo-saxons mais très fréquemment utilisés dans le domaine des cessions d'entreprise. Que se passe-t-il lors de ces deux étapes?
Oui, alors le pré-closing et le closing, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de termes équivalents en français qui me vient tout de suite, on emploie, mais en fait, on parle de signature au moment du protocole d'accord, puisque les parties s'engagent et signent. Et en fait, le closing, c'est la deuxième signature. Voilà, c'était la première, c'est la promesse de vente, et là, c'est la vente. Et en fait, donc, dans cette période de pré-closing, les parties ne peuvent plus se retirer de la cession sous peine de pénalité qu'elles auront de préférence prévue dans le contrat. Mais en fait, pendant cette période, se jouent quand même les conditions suspensives qui ont dû être inclus dans le protocole d'accord, et s'ils ne se réalisent pas à une certaine date, ça annule la cession. Et donc dans cette période avant le closing, les conditions suspensives doivent être satisfaites. Donc c'est tout ce qui est en obtention d'un financement dont je parlais avant, la transmission de documents importants, voilà ce qui est souligné, ou l'information des salariés, ça peut être également une condition suspensive d'annulation de la cession. Et par contre, l'acquisition devient définitive qu'au jour du closing. Autrement dit, en fait, on ne peut pas forcer l'acquisition si une partie souhaite s'en désengager avant le closing. On pourrait lui imposer des pénalités, mais la transaction ne se fera pas. Par contre, au moment du closing, la transaction se fera. Puisque c'est à ce moment-là où on transfère les titres de propriété de la société. Voilà, ce qu'il y a à noter également, c'est que si jamais il devait y avoir une dissonance ou une incohérence entre ce qui avait été affirmé et signé dans le protocole d'accord et ce qui apparaît au moment du closing, par exemple, si des informations dans les documents qui ont été transmis seraient un petit peu différentes, ça n'annule pas nécessairement la transaction si en fait tous les autres éléments sont importants. Mais au dernier moment, ça peut éventuellement faire baisser le prix final de vente. Voilà, si les parties sont d'accord, pour ne pas faire annuler la vente pour quelques petits éléments qui seraient un petit peu incohérents.
Jusqu'au dernier moment, le prix de la transaction peut bouger.
Tout à fait.
Alors, pour terminer cette conférence, donc nous allons aborder notre dernière partie sur l'acquisition d'entreprises en difficulté. Dispose-t-on du même niveau d'information lorsqu'on fait l'acquisition d'une société en difficulté ou est-ce que le niveau d'information est un peu plus faible?
Alors, on n'a pas le même niveau d'information, puisqu'en fait, dès lors qu'on a une procédure collective, c'est-à-dire une sauvegarde, un redressement judiciaire ou une liquidation, il n'y a pas d'obligation d'informer les salariés en cas de reprise d'une entreprise en difficulté, tout simplement. Voilà, sachant que ça reste tout de même un sujet sensible pour l'acquéreur, puisque souvent une acquisition d'une entreprise en difficulté, ça signifie qu'il faut redresser cette société et donc augmenter son chiffre d'affaires, ses revenus. Et le moyen le plus simple souvent, c'est de faire baisser la masse salariale. Donc il y a souvent des questions de licenciement. Et alors voilà, c'est plus des questions sensibles, je dirais politiquement, puisque les questions d'acquisition de sociétés en difficulté, elles sont très scrutées par les pouvoirs publics, que ce soit l'État ou les collectivités locales. Et avant, vous parliez de gangrange. C'était l'exemple, ça remonte pendant quelques années, mais c'était en 2012, un projet de cession qui était très scruté par les pouvoirs publics et qui avait failli entraîner la nationalisation du site. Mais finalement, ça n'est pas arrivé, donc il y a eu potentiellement des conséquences juridiques, même si ça ne s'est pas fait. Et je pense également à un autre exemple, c'est l'usine Labonal, qui en 2018 a été reprise par les salariés en Alsace. Et donc, en fait, donc il n'y a pas eu l'obligation d'information des salariés, mais le fait qu'il y ait eu une reprise par les salariés, que ce soit bien passé, ça a permis à l'entreprise d'être reprise d'une part et d'améliorer aussi son image d'entreprise voilà, responsable et respectueuse des salariés.
Très bien, merci beaucoup. Alors, en quoi les procédures d'acquisition d'une entreprise en difficulté diffèrent-elles d'une procédure d'acquisition classique telle qu'on a pu l'aborder lors de nos deux précédentes parties?
Alors, il y a beaucoup de différences parce qu'en fait, la procédure d'acquisition d'entreprise classique, elle est assez peu réglementée par la loi, alors qu'en fait, la procédure d'acquisition d'une société en difficulté, en fait, elle est directement régie par le code du commerce, donc directement par les lois. Ça peut prendre la forme d'une succession totale ou partielle. Alors, une succession partielle, c'est celle qui porte sur un certain nombre d'éléments de l'entreprise, une partie, une branche complète ou autonome d'activité. Après, concrètement, une cession d'une entreprise en difficulté, elle est décidée par le tribunal de commerce, qui doit en fait constater que l'activité, que le projet de reprise va permettre à l'activité d'être structurée et d'être financée et de permettre en fait la poursuite de l'activité dans de bonnes conditions. Donc, c'est le tribunal de commerce qui va se prononcer. Et en fait, c'est également lui qui va fixer le calendrier dans lequel on va devoir présenter des offres de reprise. Donc, ce n'est pas la liberté des parties, mais c'est le tribunal. Et après, en fait, il y a des difficultés très concrètes, puisque si on fait l'acquisition d'une entreprise en difficulté, il y a un très fort risque d'insolvabilité et de faillite suite à la cession. Donc, il y a une vigilance particulière à faire, notamment au moment de l'audit et de l'examen de la situation de la société. Il est également nécessaire d'anticiper les fonds qui vont être nécessaires pour redresser l'activité, parce qu'en fait, il faut envisager un plan de reprise et il faut que ce soit quelque chose de réaliste et qu'on estime qu'il fonctionne, donc qu'il soit suffisamment réfléchi. Et enfin, la difficulté supplémentaire, c'est qu'en cas de redressement judiciaire, il faut que l'administrateur de la société donne son accord sur le projet de reprise. Et pareil pour la liquidation, c'est le liquidateur qui a un droit de regard sur la transaction. Et voilà. Et par contre, l'avantage, bien entendu, de reprendre une entreprise en difficulté, c'est que le coût d'acquisition va être beaucoup plus faible qu'une société en bonne santé financière, ce qui est assez logique. Voilà.
Oui, c'est là où on parle souvent d'entreprises rachetées à l'euro symbolique. Ça arrive encore de nos jours. Alors, l'heure tourne. Il nous reste juste deux questions. Je vous demande un petit peu de patience. Je suis désolée pour le retard. On va prendre le temps d'y répondre parce que vous êtes vraiment passionnant, Maître Blatz. Donc, existe-t-il des aides spécifiques? On a parlé tout à l'heure des aides pour les reprises d'entreprises en règle générale, mais dans le cadre des entreprises en difficulté, existe-t-il des aides supplémentaires?
Oui, alors je vous disais avant, il y a beaucoup d'aides déjà pour les entreprises qui ne sont pas en difficulté. Alors il y a une mesure d'aide, c'est les mesures d'aide d'allègements fiscaux pour les entreprises en difficulté dans le domaine industriel. Donc les entreprises industrielles en difficulté, si elles sont reprises, elles permettent d'avoir des allègements fiscaux pendant 2 ans après la reprise. Voilà, pour information, sont exclus de ce domaine-là, le transport, la pêche, la sidérurgie, mais ça reste suffisamment de champs d'entreprises industrielles. Et à cela s'ajoutent en fait des aides qui vont être alors plus ponctuelles par les collectivités locales et de manière générale les pouvoirs publics, qui vont être soit des allègements de la fiscalité locale, soit en fait des prêts à taux zéro, qui vont être notamment qui sont proposés par de nombreuses régions, ou encore en fait des cautionnements dans le cas où le repreneur n'en aurait pas suffisamment lui-même.
Très bien. Alors pour conclure, si vous aviez 5 conseils vraiment essentiels à donner à de futurs acquéreurs d'entreprises, quels seraient-ils?
Alors, 5 conseils essentiels, il y en a beaucoup à donner. Celui que j'ai donné en introduction, c'est sur la question de l'anticipation. Parce qu'en fait, l'anticipation et le fait d'être toujours actif dans la transaction, puisqu'en fait, si une transaction elle dure 6 mois, 1 an, 2 ans, ça ne veut pas dire qu'en fait, on ne fait rien entre les différentes étapes. Où, voilà, il faut anticiper, il faut penser notamment à ce que là, l'entreprise cédée mette en place des mesures qui seront demandées en fait par l'acquéreur et nécessaires pour procéder à la transaction. Il faut aussi penser à tout ce qui va être la période de transition une fois que le protocole d'accord est signé, quels changements on veut faire et bien entendu prévoir et anticiper les changements qui vont être faits au moment du closing puisque c'est à ce moment-là où en fait, la nouvelle équipe, où, l'acquéreur va prendre possession vraiment de la société. Donc c'est à ce moment-là où, où il devra tout de suite être, et être prêt à continuer l'activité. Deuxième élément qui est vraiment important et qui est essentiel, c'est de ne pas négliger les salariés et les représentants du personnel. En fait, pour trois raisons évidentes, mais en tout cas voilà, qui doit être importante, c'est le fait d'éviter de futurs litiges avec ses représentants du salarié. C'est également s'assurer en fait, que simplement le projet, la stratégie de l'acquéreur soit effectivement transmise aux salariés et que donc, dans cette perspective de reprise, elle puisse être mise en œuvre très rapidement. Et enfin, le dernier élément, c'est faciliter l'adhésion des salariés au projet d'acquisition, voilà, puisque les personnes informées seront plus susceptibles d'adhérer tout simplement à la nouvelle stratégie de l'acquéreur. Et pour l'acquéreur, cela signifiera également d'obtenir de nouveaux résultats, de meilleurs résultats dès la reprise. Je dirais encore, donc là on est au troisième, qu'il faut négliger aucun aspect du processus d'acquisition, et notamment ne pas vouloir faire l'impasse, puisqu'il y aurait éventuellement des coûts liés à l'audit, liés aux négociations des différents éléments. Mais en fait, tous les coûts qu'on pourrait imaginer économiser pendant la période de négociation, on va les payer 10 fois plus par la suite, en cas de problème, et il y a toujours des problèmes. Si on ne prévoit pas tout. Et bien sûr, éviter les futurs litiges et la surprise financière, un type de problème. Alors, quatrième élément, c'est, je pense, le fait d'être ambitieux dans ces projets de reprise, puisqu'il y a la question de l'apport initial, mais il y a les questions de financement. En fait, il y a beaucoup de montages qui permettent de lever des fonds assez importants pour acquérir une entreprise. Voilà, avec... le financement bancaire, des investisseurs privés institutionnels. Je sais qu'on entend souvent dans l'actualité que c'est la fin de l'argent facile et donc c'est la fin des grandes transactions, mais ce n'est pas forcément le cas, puisque il y a déjà, s'il y a moins d'argent facile, je dirais, moins de possibilités d'obtenir des emprunts bancaires très favorables, il y a également moins de concurrence pour acquérir des entreprises, donc de plus belles opportunités et des prix éventuellement moins élevés. Donc voilà, donc il faut pas se dire qu'en 2023, par exemple, il y aura moins de perspectives qu'en 2021, parce que ce n'est pas vrai, ce sera probablement l'inverse. Et le dernier élément que je voudrais vous donner, conseil essentiel, je dirais, c'est la prise en compte de ce qu'on appelle les critères ESG, environnement, sociétaux et de gouvernance. C'est également la RSE des entreprises. Donc, ça, normalement, la plupart des entreprises en ont entendu parler. C'était souvent une question d'image, de respecter et de mettre en avant le respect de l'environnement, de la société et d'avoir une bonne gouvernance. Mais aujourd'hui, en fait, ça devient de plus en plus un problème juridique et qu'il faut anticiper aujourd'hui. Par exemple, en France, on a mis en œuvre un devoir de vigilance pour les sociétés, notamment pour les conséquences de leur activité en matière environnementale, en matière de gouvernance, c'est-à-dire de corruption, et sociale, c'est-à-dire de respect d'une part des employés, salariés, mais également en fait, de l'impact de manière générale sur la société. Donc c'est un devoir de vigilance qui existe en France, qui n'est applicable qu'aux entreprises de plus de 5 000 salariés, voire 10 000 dans le monde entier, donc c'est plutôt des multinationales, ce qui ne parlera pas à la plupart. Par contre, en fait, le fait que la France ait fait ça, c'est un peu précurseur, parce qu'aujourd'hui, il y a une directive de la Commission européenne qui prévoit une extension de ce devoir de vigilance pour les entreprises dès qu'elles sont de plus de 250 salariés et 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, si elles sont dans un secteur à risque, par exemple le textile, l'agriculture, le pétrole, le gaz. Mais en fait, cette directive irait plus loin, puisqu'en fait, tous les fournisseurs qui ont une relation commerciale continue avec ce genre d'entreprise de plus de 250 salariés serait concerné également par ce devoir de vigilance et pourrait faire l'objet d'audit par ces entreprises, même si elles ont 10 salariés. Voilà. C'est une question particulièrement importante qui va rentrer juridiquement en vigueur et qui sera applicable à de très nombreuses entreprises dans les prochaines années. Et si vous faites l'acquisition d'une entreprise aujourd'hui sans prendre ça en compte, vous aurez des mauvaises surprises et ce sera impossible d'inclure ça dans une garantie d'actifs et de passifs. Et donc, ça demande un travail important dès maintenant pour les acquéreurs.
Merci beaucoup, maître. Et puis, pour rappel, la directive, donc c'est, si je me souviens bien, c'est la directive CSRD de la Commission européenne dont vous parliez, maître. Et nous en avions longuement parlé lors de notre précédente webconférence sur la RSE et l'environnement, justement. Donc, nous arrivons au terme de cette webconférence. J'espère que ce format vous aura plu et que vous aurez trouvé réponse à toutes vos questions. Marine vous a déjà communiqué, je crois, le lien d'un de nos dossiers sur le sujet de l'acquisition des entreprises. N'hésitez pas à le consulter. N'hésitez pas également à contacter Maître Blatz pour tout conseil juridique supplémentaire. Marine va également vous transmettre sous peu le lien vous permettant de poser gratuitement votre question à nos juristes. Alors, vraiment, j'espère que cette webconférence vous a plu. On est vraiment très soucieux chez Juritravail de votre satisfaction. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de prendre un tout petit peu de temps pour nous donner votre avis sur cette webconférence. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que vous transmet Marine en ce moment. Enfin, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine webconférence qui aura lieu le 7 juillet. Ça sera la dernière webconférence avant la rentrée du mois de septembre. Et nous traiterons d'un sujet radicalement différent puisqu'il s'agira de parler des procédures de licenciement. Différents types de licenciements, presque chacun d'entre eux a une procédure qui lui est propre et il est toujours très essentiel de ne pas se tromper pour éviter encore une fois des recours. Donc je vous invite vivement à vous inscrire et nous y retrouverons donc Maître Vallier, avocat au barreau de Nice, qui animera donc cette conférence avec moi. Donc, il me reste maintenant à vous remercier, Maître Blatz. Vraiment, merci beaucoup pour la clarté de vos explications et la qualité de vos conseils. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
Merci, au revoir.
Et merci encore à tous d'avoir assisté à cette webconférence et j'espère vous retrouver très bientôt. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.